Denis Maas à sa résidence de Montréal le 1er novembre 2001. L'entrevue est réalisée par Simon Morin. Dans la première partie, Denis, il y a quelques années, nous avions parlé surtout de votre vie personnelle et de votre carrière en journalisme. Et cette fois-ci, on désirait aborder davantage votre cheminement philatélique et l'implication dans les clubs de philatélie, probablement dans la région de Montréal. Et j'aimerais ça savoir si vous pourriez nous en parler un peu.
Donc, ayant commencé à faire paraître une chronique philatélique dans la presse en 1961, j'avais parallèlement aussi, je m'étais inscrit à l'Union philatélique de Montréal, qui était à l'époque le club le plus important parmi les philatélistes francophones de la métropole. Et c'était un club qui avait été fondé déjà en 1933, parmi l'un des plus anciens du Québec. Et j'en faisais partie, je suivais les activités d'une façon sporadique, je pourrais dire. Et au sein de ce cercle de philatélie pour adultes, il y avait une section pour les jeunes. L'histoire de ça, c'est que les jeunes de moins de 16 ans pouvaient venir aux réunions et y assister pour environ une demi-heure. Mais au bout d'une demi-heure, les adultes voulaient rester tout seuls et renvoyaient les jeunes chez eux en croyant qu'ils en avaient assez vu et en avaient assez appris. Et puis, ils étaient réinvités à la prochaine réunion et c'était ça la section des jeunes. M'étant rendu compte de la situation, j'ai pensé à un moment donné, en 1972, de fonder au sein de l'Union philatélique de Montréal une véritable section pour les jeunes d'une façon plus autonome, soit que ces jeunes se réunissent un autre soir que celui des adultes, ou dans un local voisin, et puis qu'après notre réunion, ils puissent passer quelques moments avec les adultes. Et puis, on a fonctionné comme ça pendant un bout de temps. Ensuite, nous faisions quand même partie de l'Union philatélique de Montréal, tout simplement comme une section de jeunes. Mais nous avions nos propres activités et au bout de quelque temps, le rôle des membres avait beaucoup dépassé celui de l'Union philatélique de Montréal, celui des adultes. Nous avions un budget qui dépassait largement celui de l'UPM, mais à la fin de l'année, on nous réclamait tout ce qu'il y avait dans notre caisse. Il fallait donc retourner l'argent, les recettes qu'on avait à l'UPM. Donc, il y a eu un différend là-dessus qui s'est développé. Et puis, à la suite de ça, nous avons décidé de devenir un club de jeunes autonome, complètement détaché de l'Union philatélique de Montréal, et d'avoir nos propres activités, notre propre gestion, notre propre budget. Alors, avec ça, au bout de deux ans, la troisième année, j'ai lancé un projet d'une kermesse philatélique. Ça s'était jamais fait. Une kermesse, c'était un lieu de rencontre où les jeunes du club animaient chacun un stand ou un kiosque ayant un thème particulier. Il y avait, par exemple, un thème sur la musique, un kiosque sur la musique, où les gens pouvaient entendre la musique qui est inscrite sur le thème comme partition musicale, ou entendre un instrument de musique qui était illustré sur le timbre. Il y avait un kiosque sur la peinture. Il y avait différents kiosques d'animation avec des jeux. Il y en avait un, par exemple, qui était un grand panneau représentant l'île de Montréal, qui était muni de petites lumières et de boutons. Et puis, en répondant correctement aux questions, en appuyant sur le bon bouton, on pouvait voir si la réponse était bonne, la petite lumière s'allumait au bon endroit. Ça avait été très long à monter, mais on l'avait. Tous les jeux et tous les stands ont été montés par les jeunes et leurs parents. Et puis, ça a duré 3 jours, un week-end du vendredi jusqu'au dimanche soir. Et puis, nous avions eu plus de 3 000 à 4 000 visiteurs, ce qui ne s'était jamais vu pour aucune exposition philatélique organisée auparavant en 3 jours. Avec les recettes provenant de cette kermesse, nous avons formé le projet de nous rendre à Philadelphie, tout le groupe, en autocar, pour assister et voir l'exposition internationale Interphil 76. Alors là, sur les lieux, tous les membres du club, c'était un autobus qui pouvait contenir 46 personnes. Nous l'avions rempli au complet. Et puis, nous avions eu la chance de trouver un lieu de séjour dans la banlieue proche de Philadelphie. Un lieu qui était constitué de différents pavillons et qui servait à l'organisation scout de l'État de Philadelphie, de l'État de Pennsylvanie. Pour la région de Philadelphie. Nous habitions les petits pavillons et au programme de la journée, nous avions formé différents projets pour que les jeunes puissent aller visiter, voir des attractions touristiques de Philadelphie. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Il y avait à ce moment-là une grande rivalité entre les Canadiens de Montréal et les Phillies de Philadelphie, pas les Phillies, les
Flyers.
Le club de hockey de Philadelphie.
Les Flyers.
Et puis, il y avait deux de nos jeunes qui avaient revêtu le costume du Canadien pour se promener en plein dans Philadelphie, au risque de recevoir des bosses. Il y en a un autre groupe, et pour le plaisir de la chose, se sont retrouvés comme égarés dans Philadelphie, ne connaissant pas un mot d'anglais, alors qu'ils comprenaient tous très bien l'anglais, et la police les a amenés au poste, au commissariat de police, pour essayer de les interroger où ils étaient ou d'où ils venaient, et comme ils faisaient semblant de ne rien comprendre à l'anglais, ça a été toute une farce qu'ils ont racontée le soir à une veillée autour d'un feu de camp. Le soir, donc, nous faisions des feux de camp auxquels étaient invités tous les gens de la région de l'espèce de camp scout où nous étions. Et ça avait eu beaucoup de succès parce que tout était en français et ça donnait un cachet que les gens recherchaient, certains n'avaient jamais entendu des chansons en français. Et j'en avais dans mon groupe qui jouait de la guitare, et c'était très animé. Après le retour à Montréal, après ce projet, nous avions décidé, bien sûr, d'organiser une deuxième kermesse l'année suivante. Cette deuxième kermesse a eu lieu dans un local beaucoup plus grand, à l'école Père Marquette, et n'a peut-être pas connu le même succès que la première fois. L'enthousiasme peut-être avait baissé, mais ça avait été quand même un bon succès quand même. Et après ça, nous avons délaissé les projets de kermesse. Nous en avions fait deux années de suite et nous voulions passer à autre chose. Alors, en l'année 75, je crois, 72, dans l'année 77 ou 76, nous avons commencé à organiser des journées philatéliques en province. Nous voulions aller répandre l'idée de la philatélie ailleurs qu'à Montréal. Et puis, chacun des membres du club était revêtu d'un T-shirt avec l'emblème du club sur le devant. Et puis, pour la première fois, nous étions allés à Joliette. Cette activité de journée philatélique avait été annoncée au préalable dans les journaux locaux. Et il y avait toutes sortes d'activités proposées aux jeunes, avec des séances de projection de diapositives et de la musique à entendre. Et tout était inspiré par les thèmes et ça avait marché rondement. Le mois suivant, nous sommes allés faire tenir la même journée philatélique à Trois-Rivières, une journée qui avait eu lieu au pavillon Saint-Arnaud, dans le parc P12 à l'entrée de la ville. Et à Trois-Rivières, il y avait un vieux club de philatélistes qui marchait plus ou moins, K1KA, mais il n'y avait pas de club de jeunes. Et nous avons su qu'après notre passage à Trois-Rivières, il s'est formé un club de jeunes. Moi, je ne savais plus ensuite vraiment me renouveler dans les activités et je commençais à refaire les mêmes activités du début. Alors j'ai cédé la place à ceux qui étaient prêts pour prendre la relève au sein même du club. Il y en avait qui avaient déjà 18-19 ans et qui ont continué sans que je sois là. Et ça a continué de marcher pendant quelques années après mon départ. Ça a été l'histoire de l'Union philatélique des jeunes de Montréal.
Denis, parmi les cinq années où vous avez été moniteur de l'Union philatélique des jeunes de Montréal, et qu'il y avait, vous m'aviez dit à un moment donné, à peu près 80 membres, là, dépendant des années, est-ce qu'il y a certains jeunes philatélistes qui sont devenus, je dirais, des philatélistes plus âgés avec le temps? Est-ce que certains sont encore dans la philatélie?
Oui, il y en a quelques-uns qui ont persévéré en philatélie. Il y en a un qui en a fait sa carrière. Il est entré finalement comme vendeur chez un négociant très important à Montréal. D'abord la timbrothèque de Jean Lapointe. Et puis après, il est passé chez Lise Darnell, qui publie le fameux catalogue de timbres canadiens et qui exploitait un commerce de timbres chez Eaton et qui a maintenant ouvert sa propre boutique sur la rue Saint-Jacques à Montréal sous le nom de Chez Rousseau. Et il s'appelle Luc Legault. Il faisait partie de l'Union philatélique des jeunes de Montréal. Et il a continué là-dedans. Il y a eu aussi un des fondateurs de l'Union philatélique des jeunes de Montréal, Luc de Stefano, qui est devenu par après l'un des fondateurs de l'Académie québécoise d'études philatéliques. Je pourrais mentionner encore Michel Taillon, qui était membre de l'UPJM et qui est devenu récemment membre de l'Académie québécoise d'études philatéliques. Ça en fait au moins trois qui ont persévéré. Il y en a sûrement d'autres, mais moi, je ne suis pas resté en contact avec tout le monde. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus.
Alors, une fois que vous avez laissé l'UPJM s'organiser d'elle-même, vous êtes quand même retourné à l'Union philatélique de Montréal.
Oui. Bénéficiant de l'expérience que j'avais acquise dans l'animation chez les jeunes, je me suis présenté aux élections pour devenir président de l'UPM. J'ai tenté de reprendre à peu près beaucoup des activités qui avaient du succès auprès des jeunes en les adaptant aux adultes. Les adultes ont suivi, mais je me rappelle qu'à un moment donné, un soir, il y avait eu une conférence assez longue et à la fin, il y a un des membres de l'UPM qui était venu m'avertir que c'était assez fastidieux d'écouter une conférence toute une soirée, que lui venait plutôt pour échanger des thèmes et puis il n'y avait pas eu de temps, pour de période pour les échanges. Alors, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même façon d'aborder la philatélie, mais on a fait, sous ma présidence, en 1979, une année assez animée pour un club d'adultes, mais à la fin de l'année, j'étais plutôt désespéré que mes apports n'avaient pas porté aussi loin qu'avec les jeunes. Et j'ai préféré abandonner et puis laisser la place à un autre. J'ai été donc un an président de l'Union philatélique de Montréal.
À ce moment-là, Denis, les réunions de l'UPM avaient lieu à toutes les deux semaines?
Toutes les deux semaines. Ça a toujours été comme ça depuis le début de l'UPM. Toutes les deux semaines, le deuxième mardi et le quatrième mardi du mois.
Et en dehors un peu de votre présidence, où au début vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs conférences, des fois certaines étaient un peu longues par rapport à la demande populaire. Comment ça se déroulait habituellement une réunion? Est-ce qu'il y avait uniquement des conférences ou uniquement des échanges?
Oui, il y avait des jeux aussi qui étaient d'ailleurs traditionnel à l'Union philatélique de Montréal, comme il y avait un soir où des milliers d'enveloppes étaient répandues sur deux tables mises côte à côte. Les gens étaient invités à fouiller là-dedans pour trouver 10 trésors qui pouvaient peut-être constituer une paire de têtes bêches sur enveloppes de françaises qui étaient dissimulées dans tout le lot. Mais ils avaient le droit, en fouillant, de conserver tout ce qu'ils voulaient. Ça, c'était une activité qui a toujours eu lieu à l'UPM. Il y avait dans ce temps-là les cahiers qu'on appelle les circuits de thèmes, où les membres du club mettent des thèmes qu'ils vendent à prix réduit aux membres. Ceux qui sont intéressés s'approchent de cette table et regardent les cahiers et choisissent les thèmes qu'ils veulent. Mais il y avait certains jeux, je pourrais dire, qui avaient eu un grand succès chez les jeunes et que j'ai essayé de répéter chez les adultes, mais ça n'avait pas du tout le même impact. Et je me suis rendu compte que le président, il fallait qu'il fasse tout. Comme par exemple placer les chaises et les tables avant la réunion, puis tout ranger après la réunion. Alors je me suis dit, ça c'est sûrement pas le rôle d'un président de club, et ça m'a amené à abandonner l'affaire complètement.
Puis, après votre mandat, vous êtes demeuré quand même membre de l'UPM?
Oui, je suis demeuré membre. Il y a eu un qui m'a succédé à la présidence, et puis... Après ça, un autre. Mais à l'UPM, on trouvait ça très statique. Il n'y avait jamais de conférences. Et on n'apprenait jamais vraiment rien aux réunions. Et c'est ce qui nous a amené, un petit groupe de 4 membres de l'UPM, à fonder une espèce d'académie qui se réunirait uniquement pour entendre une conférence prononcée par un des membres de cette académie, à l'occasion d'un repas en commun que nous partagerions ensemble, et à la suite de quel repas, il y aurait un membre qui serait invité à prononcer une conférence de son cru sur un sujet qui l'intéresse particulièrement et qu'il aurait travaillé suffisamment pour en faire une bonne conférence. Et ça, c'était en 1982. C'était, nous étions donc quatre qui avons lancé l'idée et puis nous nous sommes mis au téléphone à inviter des gens pour en faire partie. Et la première réunion de tout ce monde-là réunissait 12 personnes qui sont considérées aujourd'hui comme les fondateurs de l'Académie québécoise d'études philatéliques en 1982, en octobre 1982. Et ça fait 20 ans que ça marche, un peu plus de 20 ans même. Nous allons célébrer le 20e anniversaire, pas plus de 20 ans, nous allons célébrer en 2002 avec la visite d'une académie européenne qui va se joindre à nous pour célébrer nos 20 ans.
Denis, est-ce que vous pourriez nous dire un peu dans vos propres mots, quand en 1982 vous étiez membre fondateur de l'Académie québécoise d'études philatéliques, quels étaient les autres promoteurs et comment en réalité ça s'est passé là, pour décider que ça prenait une académie ou une société, un club plus spécialisé un peu?
Nous étions un groupe de quatre amis qui suivaient les activités de l'UPN. Et nous déplorions tous les quatre de ne rien apprendre de ce qu'on savait déjà au club, à l'UPM. Ce qui nous manquait, ce serait, par exemple, la visite d'un philatéliste plus avancé qui nous aurait fait découvrir des choses nouvelles ou qui aurait fait une conférence sur, par exemple, sur... les timbres émis par la SAR, un pays qui existait autrefois comme entité nationale. Juste un exemple. Ces quatre personnes étaient Luc de Stéphano, Jean-Charles Morin, Normand Caron et moi-même. Nous avions décidé de nous réunir chez Luc de Stéphano à Sainte-Justine de Newton, où il habitait avec ses parents et où il y avait un très beau parc adjacent à la maison avec une piscine. Et puis, nous nous étions réunis là pour discuter de la chose et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener à l'UPM ce que nous cherchions à avoir. À obtenir d'un club de philatélie. Luc avait déjà eu l'idée d'organiser des déjeuners dans un restaurant le dimanche matin, un déjeuner qui réunirait tous ceux qui veulent échanger des thèmes ou partager des opinions et des informations sur la philatélie et où il y aurait eu une conférence avant de se séparer. Et il était sûr que ça marcherait. Et puis, tout en discutant, nous avons découvert que la formule que nous étions en train d'élaborer, ça équivalait exactement à celle d'une académie qui n'existait pas au Canada, ni au Québec, ni au Canada. Alors, nous nous sommes dit, tiens, pourquoi pas appeler ça tel que ça se présente, une académie d'études philatéliques. Et nous avions choisi le mot philatélique spécialement à dessein pour éviter les conférences en histoire postale, parce que nous préférions à ce moment-là, tous les quatre, l'étude des timbres plutôt que l'étude des marques postales. Et c'est pourquoi nous avions inclus le mot philatélique dans le titre de l'organisme. Mais à quatre, ça ne formait pas une académie. Alors nous étions partagé une liste de gens à appeler qui seraient peut-être intéressés à se joindre à nous pour former une véritable académie. Et c'est ainsi que nous avons lancé le projet. Et nous avons finalement réussi à réunir 12 personnes qui ont assisté à une présentation du projet global et puis qui ont donné leur accord. Et puis, à partir de cette réunion-là, qui a eu lieu en octobre 1982, l'Académie a été constituée et a toujours continué à raison d'une réunion tous les mois, ce qui est très exigeant et qui ne se voit nulle part ailleurs au monde. Il n'y a aucune académie qui réunit ses membres tous les mois pour entendre une conférence donnée par un de ses membres. Et ça, nous l'avons fait pendant près de 20 ans. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Et ça tient encore.
Alors, c'est tout un cheminement d'avoir mis la philatélie spécialisée ici au Québec. Par contre, au point de vue individuel, Denis, est-ce qu'à l'occasion, vous vous êtes occupé aussi, est-ce que vous, en tant que collectionneur, est-ce que vous avez soit exposé votre collection ou vous avez peut-être là, débuté certaines expositions ici au Québec, initié certaines expositions?
J'ai participé à des expositions avec des thématiques qui m'intéressaient. J'en ai présenté un peu partout. Un certain temps, la Fédération me recrutait comme juge, mais j'ai jamais aimé ce métier de juge dans les expositions. Et puis, j'en ai fait 3 ou 4, et après, je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas d'être un juge. J'ai participé à des expositions organisées par des clubs. Mais j'avais des projets qui m'intéressaient plus particulièrement. J'avais publié une série de 5 brochures qui ont été commanditées par la Société canadienne des postes. On m'avait demandé de réunir les timbres canadiens sous un même thème. J'avais fait l'art et le timbre, les timbres et la mer, et puis je ne sais plus trop lesquels. Il y avait l'art et le timbre, et puis les timbres et la mer.
Et Montréal.
Il y en avait 2, 3 autres.
Montréal,
les timbres sur Montréal. Et à partir de ces brochures-là, qui réunissaient les timbres qui se greffaient au thème de la brochure, j'ai monté des expositions thématiques à la Maison de la Poste à Montréal. Je me rappelle en particulier de celle sur l'art et le timbre. Et il y avait un dessin sur un timbre qui avait été reproduit pour l'année internationale des enfants. Et ce dessin avait remporté le premier prix organisé par l'UNICEF. Et puis, il avait été fait par une fillette d'une dizaine d'années qui habitait à Longueuil. Et puis, son dessin original était conservé dans une bibliothèque en Suède qui avait organisé le concours à l'échelle mondiale. Et puis, j'avais réussi à convaincre la bibliothécaire, celle qui était responsable du musée philatélique à Ottawa. Je ne sais pas si tu te souviens de son nom, Madame
Brousseau?
Non. Avant elle.
Beaulieu.
Alors.
Monique Beaulieu.
Oui, exactement. Alors, elle avait écrit, je lui avais donné l'adresse, puis je lui avais exposé les faits. Elle avait écrit à ce musée de Stockholm, en Suède, pour lui demander de nous renvoyer le dessin original qui avait formé le timbre en question sur l'année internationale des enfants. Et puis avec plaisir, ce musée suédois nous a renvoyé l'original. Et pour l'exposition organisée à la Maison de la Poste, la jeune fille qui était maintenant âgée de 14-15 ans était venue pour inaugurer en quelque sorte l'exposition parce que son dessin original était exposé à côté de son timbre. J'avais monté aussi une exposition sur Montréal. Quels étaient les timbres reliés à la ville de Montréal? Et il y en avait un qui représentait John Abbott, qui est un ancien premier ministre du Canada, qui avait été maire de Montréal, je crois, en 1891 et 1892. Donc, le maire actuel de Montréal, M. Jean Drapeau, était venu reconnaître dans l'exposition ce M. Abbott, qui avait été maire de Montréal comme lui. Et nous avions beaucoup de photos de ça.
Alors, Denis, on a parlé un peu de votre implication avec les Maisons de la Poste, qui étaient à Poste Canada à l'époque. Je sais aussi que vous avez été membre du comité consultatif des timbres-poste à Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Donc, en 1980, M. Ouellet, qui était ministre des Postes à l'époque, est-ce qu'il était à la Société canadienne des Postes ou ministre des Postes? En 1980. Enfin, M. Ouellet m'avait invité à faire partie du comité consultatif à titre de consultant en philatélie, parce que le comité regroupait des gens de toutes disciplines, comme des historiens, des artistes, des designers. Mais il y avait toujours deux ou trois sièges pour un spécialiste en philatélie. Et il m'avait appelé à remplacer M. Raymond Dubé, qui en faisait partie et qui était à sa retraite. Il avait été rédacteur en chef du journal Le Soleil à Québec. Et puis après sa retraite de ce poste, il avait lancé une chronique philatélique dans le journal Le Soleil. Et il avait été appelé à faire partie du comité consultatif. Et à la fin de son mandat, M. Ouellet avait pensé à moi pour le remplacer. Moi, qui étais aussi un chroniqueur philatélique, qui publiait dans la presse. Alors, nous étions environ une douzaine de membres. J'en ai fait partie pendant 2 ans. Du comité consultatif. Nous avions des réunions générales 3 ou 4 fois par année et on discutait on faisait surtout la programmation des 2 prochaines années à venir. On choisissait parmi toutes les propositions qui sont faites au comité les thèmes que nous pourrions conserver, et les personnages qui nous intéressaient d'avoir sur timbre. Et puis après, on discutait des artistes qui pourraient être contactés pour produire les timbres que nous avions envisagé de produire. Alors, il y avait cependant un sous-comité qui se réunissait plus souvent et qui faisait le suivi avec l'artiste choisi. Et puis, après leur travail, le tout nous était proposé à nouveau à une réunion subséquente. Et là, si on avait des commentaires autres à faire, c'était à ce moment-là qu'on pouvait modifier l'esquisse préliminaire ou modifier ou apporter des changements au dessin proposé. Alors, j'ai fait 2 ans là-dessus comme membre du comité consultatif, qui était sous la présidence du juge Marin à ce moment-là. À ce moment-là, M. Ouellet ne participait pas aux réunions du comité consultatif. J'ai appris que maintenant il le fait, ça entre dans ses attributions de président-directeur général. Mais à l'époque, il n'avait pas, il était, je crois, il était directeur général, mais il n'était pas président de la société.
Alors, Denis, dans une première entrevue, on avait abordé vos chroniques hebdomadaires dans la presse, qui avaient commencé en 61, que vous poursuivez toujours. Mais en tant que plus jeune philatéliste à l'époque, il y avait une revue qui m'avait marqué qui s'appelait « Reflet de la philatélie au Québec ». Et je me demande si vous pourriez nous en parler un peu.
En 1975, un philatéliste qui a eu l'idée de lancer une revue de philatélie en français au Québec. C'était tout un défi. Il y en avait déjà eu qui n'avaient pas marché, ça avait tombé, faute de fond. Il n'y avait pas assez d'abonnés. Alors lui, il avait une formule, c'était de livrer une revue très bien faite, très moderne, sur papier glacé. Tu te rappelles, Simon, c'était vraiment un produit de luxe. Alors, il était venu me voir simplement pour me demander de prendre la direction de la rédaction. J'étais donc rédacteur en chef de la revue Philatélie, Reflet de la philatélie au Québec, édité par Yvon Legris. Ce monsieur Legris, en réalité, n'avait pas les fonds pour publier une revue mensuelle. Il avait eu l'idée de, à mesure qu'un numéro sort, une fois vendu, il va payer son imprimeur. Et puis, il lui donne la commande pour un deuxième numéro. Ça a marché comme ça pour 4 numéros. Mais il n'a jamais eu l'argent pour... il changeait d'éditeur à chaque fois. Alors, le cinquième numéro a tardé à apparaître. Il s'est écoulé à peu près un an entre le numéro 4 et le numéro 5. Mais finalement, il a réussi à réunir assez d'argent pour publier le numéro 5. Mais il a été forcé d'abandonner. Il ne pouvait pas suivre. J'ai été rédacteur pour cette revue, qui était très appréciée des milieux philatéliques. Mais ça a duré le temps que ça a duré. Après... je me suis lancé plus tard, moi-même, dans l'édition de ce que j'appelais les feuillets philatéliques. Les abonnés aux feuillets philatéliques recevaient 15 fiches par mois sur différents thèmes. Par exemple, il y avait une série de fiches sur les navires sur thème canadien. Une autre série de fiches portait sur les designers, par exemple. Une autre série sur les curiosités philatéliques ou les dernières nouvelles, les dernières informations. C'était très varié. Chaque abonné recevait une quinzaine de feuillets, donc, sur toutes sortes de sujets. Mais d'un mois à l'autre, on pouvait reconstituer un thème complet. Par exemple, si les navires sur Thème commençait dans le numéro 1, bien dans le numéro 2, il y avait encore une autre fiche sur un autre navire canadien. Mais au bout de 15 éditions, on avait couvert au moins 15 navires différents. Et c'est comme ça que ça marchait. J'étais complètement seul pour faire ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire imprimer... beaucoup de ces feuillets philatéliques-là ont été imprimés par la Fédération québécoise de philatélie, qui avait le loisir de se servir d'un imprimeur pour différents besoins. Et il fallait que j'assemble chaque page, chaque feuillet, en faisant le tour de la table, puis en prenant une page à la fois pour constituer un numéro. c'était toujours très long. Et puis, quant au nombre d'abonnés, ça a été surprenant. Ça a monté jusque dans les 400 ou 500. Et puis, c'était un bon succès. Ça aurait mérité d'être continué. La formule plaisait. Sauf que je me suis fatigué à tourner autour de la table pour rassembler chaque numéro qui comprenait 15 fiches différentes. Et puis, un mois, ça, c'est court comme délai. D'une édition à l'autre, c'était beaucoup de travail. J'ai finalement vendu les feuillets philatéliques à un philatéliste qui s'appelait Daniel Plourde et qui devait continuer. Il n'en a jamais publié un seul. Ça a tombé comme ça. Parmi les autres publications, comme j'étais à l'Académie québécoise d'études philatéliques qui a été fondée en 1982, j'ai cru qu'il serait intéressant de publier un bulletin de liaison qui rassemblerait un peu les membres hors de Montréal, ceux qui n'habitent pas Montréal, pour savoir un peu ce qui se passe à l'Académie, puis communiquer les uns aux autres les nouvelles de chacun. Et j'ai entrepris donc la publication de la Gazette que j'ai menée pendant plusieurs années. À tous les mois, il est sorti un numéro. Maintenant, j'ai ralenti, mais on a quand même publié actuellement 102 numéros de la Gazette, qui, j'en suis pas sûr, mais je crois, qu'ils sont déposés aux archives postales. Ensuite, j'ai entrepris de publier un livre de toutes sortes d'anecdotes qui traînaient dans mes fonds de tiroir sur toutes sortes de sujets se rapportant au thème canadien. Et j'ai donné pour titre ce petit ouvrage, l'Almanach de la philatélie canadienne. J'ai inscrit tome 1 sur la page couverture parce que j'avais idée d'en produire deux ou trois autres tomes. Mais finalement, je me suis arrêté au tome 1. Ça, il s'en est vendu au-dessus de 1000. J'avais obtenu, pour l'édition que je publiais à compte d'auteur, une page annonce en couleur de la Société canadienne des postes qui décorait la page couverture arrière. Ça m'avait aidé à payer la couverture au complet, cartonnée sur penny glacé. Ce livre était abondamment illustré et comportait 175 pages. Ça a été aussi un bon succès de vente que je publiais à compte d'auteur. Et puis l'année suivante, j'ai publié un autre ouvrage qui donne toute l'histoire en détail du premier timbre-poste émis par le Canada, ce qu'on a appelé le castor de Fleming. Fleming, c'était l'ingénieur arpenteur géomètre qui a finalement dessiné le motif du premier timbre canadien, le castor. Et comme il y a eu par la suite beaucoup d'autres timbres qui reproduisaient le premier et beaucoup d'autres timbres qui représentaient un castor, tant par le Canada que par les pays étrangers. J'ai appelé ça le castor de Fleming et ses descendants. Ça aussi, ça a été fait à compte d'auteur. Ça a été aussi un bon succès de vente. Mais c'est très difficile, l'édition au Québec. Notre bassin de population est trop restreint pour s'assurer de vivre là-dessus. Ensuite, on m'a offert une chronique sur les timbres et la médecine. Les timbres et la médecine, c'est publié dans un journal que tous les médecins du Québec reçoivent gratuitement chez eux et qui s'appelle l'Actualité médicale, qui au départ appartenait à la revue L'Actualité et qui a été rachetée l'année dernière par Rogers. Mais ils ont conservé la même facture. Et j'ai toujours une chronique à tous les mois sur les timbres et la médecine. Ça couvre l'ensemble des timbres du monde entier. Ce n'est pas uniquement sur les timbres canadiens. Ça fait déjà 6 ans que je publie ces chroniques mensuelles. Ensuite, en 1994, j'ai lancé un projet qui était assez difficile à réaliser, mais qui a eu pas mal de succès. Je m'étais associé pour ce projet avec un ami qui s'appelle Jacques Nolette. Alors, comme titre, puisqu'il s'agissait de fiches sur les thèmes canadiens regroupés par thème. Par exemple, on a une série sur la musique, une série sur l'art et la peinture, une série sur les navires. Et notre spécialité, c'était des séries de fiches sur les régions du Québec. Alors, quels sont tous les thèmes qui se rapportent au canton de l'Est? Quels sont tous les thèmes qui se rapportent à la Gaspésie? Quels sont tous les thèmes qui se rapportent à la région d'Outaouais? On a tout ça. On a publié pendant plusieurs années, des séries de plusieurs fiches. Il y a eu des séries comportant, par exemple, les liens avec la France. C'est au-dessus de 150 fiches. On a trouvé au moins 150 thèmes qui ont un lien avec la France, des thèmes canadiens, parce que là, on couvrait seulement les thèmes canadiens. Avec les États-Unis, c'est à peu près pareil. On a trouvé 180 thèmes qui se rapportent, qui ont un lien avec les États-Unis. Donc, on a publié 180 fiches sous le thème de les liens avec les États-Unis. Alors, on vient juste d'arrêter la production de ces fiches qu'on appelle les fiches Massenot. Seulement parce que on a perdu nos moyens techniques de le faire. Nous avions bénéficié jusqu'à maintenant d'un système à l'ordinateur qui n'existe plus. Et puis nous sommes en train de repenser une autre formule adaptable à l'ordinateur, mais dans le moment, nous n'avons pas trouvé la solution à ce problème. Mais ça n'a pas été un gros succès comme dans le passé. Je dois dire que la philatélie a beaucoup diminué. On voit presque plus de cercles philatéliques. Ils sont tous tombés les uns après les autres. Ceux qui subsistent, les quelques rares qui subsistent, le nombre de membres a beaucoup diminué. Les boutiques de négociants de timbre-poste, il y en a plusieurs qui ont disparu et qui ne sont plus là, et puis il n'en reste plus beaucoup. La philatélie, en général, a beaucoup baissé, principalement, je crois, parce que les gens se sont mis à l'ordinateur et à l'Internet, qui leur assure des possibilités de loisirs plus intéressante que des albums de timbre. Et c'est en partie pourquoi nous n'avons pas trouvé une immense clientèle pour les Fishmasnow. Quelques-uns, ou environ une centaine de personnes, étaient abonnés au Fishmasnow de tout ce que l'on publiait, tous les thèmes. Mais à chaque fois qu'on publiait un thème, évidemment, on recevait des commandes pour des gens que ce thème-là intéressait davantage. Actuellement, je travaille pour un producteur de films sur une série de 13 émissions, plutôt, non, 26 émissions d'une demi-heure, qui doit raconter des histoires, les histoires les plus intéressantes possibles, sur les timbres postes canadiens. C'est une série télévisée qui porte uniquement sur les timbres canadiens, qui a été commandité par la Société canadienne des postes, et puis que j'écris actuellement on a choisi un thème pour chaque émission d'une demi-heure, et puis c'est en cours de production. Les tournages vont commencer en janvier 2002, et ça devrait être présenté à la télévision dans 2 ou 3 ans. C'est un très gros projet. Ensuite, je publie régulièrement dans Philatélie au Québec, un magazine de la Fédération québécoise de Philatélie, des articles sur les sujets qui me tentent le plus. J'ai publié plusieurs articles dans les cahiers de l'Académie. Nous en avons publié 11 cahiers, ou plutôt 10, je crois. Le 11e est toujours en cours de production. Maintenant, des conférences, c'est justement l'objectif de l'Académie de présenter à chaque séance un des membres qui prononce une conférence. Mon tour est venu périodiquement et j'ai prononcé à ce moment-là depuis 20 ans, un certain nombre de conférences. Une de celles que j'ai aimé beaucoup travailler et faire de la recherche, c'était une conférence très visuelle où je présentais sur écran des extraits de films dans lesquels on voyait des facteurs à l'œuvre, soit des facteurs ou des postier au guichet, ou encore la philatélie des collectionneurs de timbres. J'avais trouvé environ, plus d'une trentaine de films d'où on peut extraire, produire des extraits sur lesquels on voit le facteur à l'œuvre de toutes les époques et de toutes les nationalités. On voyait même Charles Lindbergh avec son Spirit of St. Louis, qui, avant de faire sa traversée de l'Atlantique, livrait le courrier pour le U.S. Postal Service. Et on le voit très, très bien dans le film. Ainsi de suite. J'avais prononcé aussi aux messes des officiers des fusiliers Mont-Royal l'histoire complète des timbres postes canadiens qui ont une relation avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu beaucoup de recherches là-dessus, et ça avait été beaucoup apprécié. Un des plus grands succès de conférence que j'ai eu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est une conférence sur l'identification par force de déduction d'un navire qui se trouve juste derrière le monument Champlain à Québec, le monument qui s'élève à l'extrémité de la terrasse du Frein, et sur le timbre, on peut voir en contrebas un paquebot tout décoré de drapeaux et d'oriflammes parce que Il en était à sa première visite sur le Saint-Laurent et il se trouve que le photographe a pris cette photo le jour même où le paquebot Laurentic faisait sa première apparition sur le Saint-Laurent. Et c'est cette photo qui a fait le sujet du timbre. Mais il fallait se servir de nombreux indices pour en arriver à identifier qu'il s'agissait bien du Laurentic. Alors voilà, ça résume à peu près tout ce que j'ai fait. Ça résume mon parcours philatélique jusqu'à maintenant.
Bien, je vous remercie, Denis.